ces beaux chants qui nous inspirent et qui nous encouragent. Et quel beau thème, le thème de la croix. Alors, je vous invite à prendre vos Bibles ce soir et trouver l'épître de Paul aux Galates. Galates chapitre 6, et nous allons lire à partir du verset 11. J'aimerais faire quelques remarques préliminaires pour nous mettre dans le contexte de ces textes. C'est la conclusion de cette lettre écrite par l'apôtre Paul pour réfuter une erreur monumentale, voire fatale, que l'on peut mélanger la grâce et la loi. C'est une doctrine erronée que prônaient les judaïsants. Et Paul, après avoir prononcé un anathème, une malédiction contre ces faux docteurs, il va donner un exposé magistral de la doctrine de la justification par la foi. Il parle dans le chapitre 3 et 4, justement, des principes de cette justification par la foi. Et chapitre 5 et 6, il nous parle des privilèges, cette liberté que la justification par la foi nous procure. Mais en même temps aussi, à travers ces textes, il va aussi faire un rappel à propos de la loi. Je vous cite quelques textes. « Personne ne sera sauvé par les œuvres de la loi. » Galates 2:16. Tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Galates 3:10. La loi a été comme un précepteur pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Galates 5:4. Alors tout au long de son discours, Paul lance aussi en même temps quelques flèches contre ces faux prophètes. Ils vont dire aux Galates, il y a des gens qui vous troublent. Galates 1:7. Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. Galates 4:17. Puisse-t-il être retranché? Et le mot ici, c'est littéralement castré, ceux qui mettent le trouble parmi vous. Galates 5:12. Mais dans le texte que nous avons ce soir, Paul va sortir ses gros canons pour lancer une attaque frontale contre ces faux docteurs. Et il va attaquer leur motivation. Et il va faire cela en utilisant l'objet par excellence, pour trancher entre eux et lui. Il va sortir la croix de Christ. Et quelle formidable arme pour démasquer un faux docteur. Alors Paul est en train de dire aux Galates, vous voulez savoir qui dit vrai? Moi ou les judaïsants? Alors soumettons-nous au test de la croix. Et regardez nos attitudes face à la croix de Christ et vous saurez, comme on dit en bon québécois, de quel bois nous chauffons. En lisant notre texte, s'il vous plaît, Galates 6, 11 à 18. Voyez de quelle grande lettre je vous écris de ma propre main. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire, uniquement afin de n'être pas persécuté pour la croix de Christ. Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Pour ce qui me concerne, loin de moi de la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde. Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Que personne désormais me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Frère, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Je ne ferai pas trop de commentaires à propos du verset 11. Il y a deux interprétations possibles où Paul dit, « Voyez avec quelles grandes lettres je vous écris de ma propre main. » Quelques-uns pensent que probablement Paul avait un problème de vue. Peut-être il était myope. Chapitre 4, il fait référence de cela en disant aux Galates, « Vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. » Alors, il a utilisé de grandes lettres quand il a écrit cette épître. D'autres pensent que Paul ne voulait pas que les Galates soient distraits par une belle écriture. Vous savez, à l'époque, il y avait des scribes qui écrivaient et ils utilisaient une belle écriture cursive. Alors, il ne voulait pas que les Galates regardent sa lettre et disent « Waouh, quel bel A !» ou « Quel beau B !» Regardez toutes les courbes et tout cela. Parce que dans le contexte de cette lettre, il y avait une situation très grave. Et Paul voulait justement que les Galates focalisent sur cela et ne soyez pas distraits. Alors, il utilisait des grosses lettres majuscules. Qui dit vrai, nous ne savons pas, on sera peut-être au ciel. Mais ce soir, j'aimerais plutôt vous entretenir sur la croix. Et la croix de Christ occupe un point central dans ce texte. Elle occupait aussi un point central dans la vie de Paul. Et j'espère aussi que la croix de Christ occupe un point centrale, une place centrale dans votre vie aussi. Et vous savez, la croix de Christ, c'est l'unité de mesure pour toutes les questions de la vie. Parce que la croix de Christ va diviser toute l'humanité en deux camps. Le camp de Dieu ou le camp de Satan. Et la croix fait cela parce qu'elle a la capacité de trancher et de séparer ce qui est vrai de ce qui est faux. Et c'est ce qu'on va voir dans le texte ce soir. Alors, j'aimerais regarder avec vous quatre façons dont la croix de Christ tranche pour séparer le vrai disciple du faux. Et quelle grande leçon nous avons ici dans ce texte. Alors, dans un premier temps, la croix de Christ tranche et sépare le vrai disciple du faux à cause du scandale de la croix. À cause du scandale de la croix. Et quand on dit croix, qui dit croix, dit aussi crucifixion. Et pourquoi est-ce qu'à l'époque des églises de la Galatie, que la croix et la crucifixion étaient devenus un scandale? Alors, il faut comprendre un peu l'historique, le contexte historique de la croix. En partant, laissez-moi vous dire que cette croix, à l'époque de l'église de la Galatie, ne ressemblait guère à ce que nous voyons aujourd'hui. Ces croix qui ornent souvent le cou de nos mesdames et nos demoiselles. Belle croix, chromée en or, en argent, peut-être des fois incrustée avec des diamants. Bref, un bel objet. À l'époque, Nouveau Testament, la croix était un morceau fait avec un morceau de bois rugueux. Le mot dans l'original veut littéralement dire un pieu. Et la partie transversale était portée par le condamné jusqu'à ce que le lieu de la crucifixion. Alors, il n'y avait rien de beau qui était associé avec la croix. C'était un instrument de mort, de torture. Je vous lis ce que le dictionnaire biblique nous dit à propos de la croix. La croix était un instrument de châtiment le plus cruel et le plus ignominieux qui ait jamais été inventé par l'homme. Les Grecs et les Romains l'ont emprunté des Phéniciens Et les Romains sont devenus par la suite des experts en son utilisation, ayant crucifié des milliers et des milliers d'individus. Et qui est-ce qu'on crucifie? Les pires criminels, le plus bas des esclaves, des voleurs, des fauteurs de troubles. Et ceux qui y mouraient subissaient une mort lente, agonisante, honteuse, ignominieuse. Et pour cette raison, les Juifs et même les Romains haïssaient la croix, détestaient la crucifixion et l'associaient avec la honte, le mépris et le rejet. Et nous pouvons maintenant comprendre le scandale. Parce que pour un Juif pieux qui attendait le Christ, le Messie, le loin de Dieu, celui qui devrait revenir pour vaincre les ennemis d'Israël et régner en roi victorieux, pour ce Juif, il était impensable, même impossible que le Christ, que Jésus soit le Christ, le Messie. Parce qu'il est mort sur la croix comme parmi le pire des criminels. Alors, prêcher que leur Messie était mort de telle façon était scandaleux pour eux. Et ceux qui apportaient une telle doctrine étaient méprisés, rejetés et subissaient une persécution intense. Scandale pour les Juifs. En Corinthiens 1, 23 nous dit ceci, « Nous, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs. » Et Pierre va ajouter dans son premier épître, « La pierre, par le Christ comme une pierre angulaire, qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, est devenue la principale de l'angle. » Une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Et ce qui était un scandale pour les Juifs était aussi en même temps la pure folie pour les Grecs. C'était le peuple cultivé à l'époque, les Romains, les Grecs. Qu'un crucifié, qui était le portrait de la faiblesse extrême, pouvait être Dieu lui-même, était hors de leur compréhension. Pour eux, c'était stupide. Pour eux, c'était un non-sens. C'était de la pure folie pour croire cela. Et Paul va dire encore dans 1 Corinthiens, c'était un scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Vous savez, la seule façon de surmonter alors cette difficulté à l'époque, c'est d'avoir la foi. Et seule la foi permet à n'importe qui, à n'importe quelle époque, que ce soit l'époque de Paul, que ce soit l'époque aujourd'hui, de voir ni scandale, ni folie, mais encore pour citer 1 Corinthiens 1, voir la puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés. Ça, c'est la croix. Mais les judaïsants, ceux qui prônaient justement la loi de Moïse et la circoncision, ne voyaient pas cela. Ils regardaient la croix et tout ce qu'ils voyaient, c'était le mépris, honte, rejet, persécution, si eux, ils s'associaient avec la croix. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont trouvé un substitut. Tenter de trouver un substitut pour la croix. Alors, la croix, un scandale, tranche et sépare le vrai disciple du faux à cause justement de la scandale qu'elle apporte. Mais deuxièmement, elle tranche quand les hommes essayent de trouver un substitut pour la croix. Et dans le contexte ici, c'est la circoncision. Regardez votre texte encore au verset 12, s'il vous plaît. Et Paul maintenant s'adresse et il parle de ces judaïsants. Tous ceux qui veulent se rendre agréables à la chair vous contraignent à vous faire circoncire. Ça, c'était la motivation des judaïsants n'ayant pas la foi, n'étant pas les gens spirituels, la seule façon qu'ils pouvaient agir, c'était selon la chair. Et n'ayant pas la pensée de Dieu à propos de la croix, ils ne pouvaient qu'agir que selon la pensée humaine. Et qu'est-ce que Paul dit à propos d'eux? Ils veulent se rendre agréable à la chair. Je vous donne d'autres versions qui nous disent ceci, de la Bible en français courant. Tous ceux qui veulent se faire bien voir pour les motifs humains. Darby dit ceci, tous ceux qui veulent avoir une belle apparence. J'aime beaucoup la parole vivante. Ils veulent faire bonne figure devant les hommes et cherchent l'approbation de leurs semblables. Et ça, c'est la motivation des judaïsants. D'être bien vu par les hommes, d'avoir l'approbation des hommes, d'être populaire parmi les hommes. Et pour ce faire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis l'emphase sur ce qui était la fierté des Juifs à l'époque. Ce n'est pas la croix. La croix était méprisée, honteuse, c'était rejetée. Qu'est-ce qu'ils vont aller chercher? La loi de Moïse. Et qu'est-ce qui faisait la fierté du peuple juif? La circoncision. C'est ça qui c'est le substitut qu'ils ont essayé de mettre à la place de la croix. Alors, ils rejettent la croix pour embrasser la circoncision. Ils abaissent le salut par grâce pour élever le salut par les œuvres. On pourrait se poser la question, est-ce qu'ils avaient le bien-être des Galates à cœur? Est-il soucié de leur condition spirituelle et leur avancement dans la foi? Selon le texte, le motif était purement égoïste. Verset 12 nous dit ceci, « Il vous contraint à vous faire circoncire uniquement afin de n'être pas persécuté pour la croix de Christ. » Bref, leur propre sécurité. La propre sécurité était plus importante pour eux que la saine doctrine, l'évangile de Dieu. Et ça, c'est une chose qu'on voit toujours chez les faux docteurs, ceux qui ne sont pas des vrais disciples de Christ. Quand il s'agit justement de leurs propres intérêts ou les intérêts de Christ, où ça pourrait amener des troubles, des persécutions, quelques difficultés, tout le temps, ils vont chercher leurs propres intérêts, leur propre sécurité. Et quel contraste avec des vrais chrétiens. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, en parlant de ces chrétiens, a dit ceci, « Vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. » Ça, c'est la marque d'un vrai disciple de Christ. Alors, les judaïsants sont zélés pour la circoncision, pour éviter la persécution, mais aussi pour masquer leur péché. Paul va dire ceci au verset 13, « Les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi. » Alors, tout ce zèle, tout ce qui faisait zélé pour la loi de Moïse, était en réalité juste la boucane aux yeux. Pour cacher leur propre péché. Ils ne gardaient pas la loi de Moïse. Et qu'est-ce qu'ils essayent de faire? C'est de le remplacer par l'activisme. Ils voulaient que les gens le regardent et disent, « Mais écoute, voilà, ces personnes sont tellement actives qu'ils ne regardent pas justement écouter leur vie pour voir que ce n'étaient pas les gens qui observaient la loi de Moïse. » Ce matin, Douglas a cité un verset, et c'est un verset qui est vraiment à propos dans ce contexte ici, Matthieu 23, 15. Jésus va dire aux pharisiens, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, vous, parce que vous courez la mer. » Voilà. Vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Pour aller chercher un païen, pour le convertir au judaïsme. Vous vous donnez de la peine Vous exercez tellement d'énergie pour faire cela. Vous êtes actif. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la GN deux fois plus que vous. Voilà les faux docteurs. Actifs, mais pour masquer leur péché. Et troisièmement, les judaïsants sont zélés pour la circoncision. Éviter d'être persécutés. Cacher leur péché. Mais troisièmement aussi, pour avoir une occasion de se vanter. Regardez au verset 13b, s'il vous plaît. Les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. La version de la parole vivante nous dit ceci, s'ils cherchent à introduire la circoncision parmi vous, c'est uniquement pour pouvoir se vanter de vous avoir gagné à leurs idées comme disciples. Et ça, c'est toujours le contraste avec un vrai disciple et un faux docteur. Toujours l'orgueil. Ces gens ici étaient fiers de dire au monde, voilà le nombre d'adeptes que nous avons pu gagner à notre cause. Le vrai disciple de Christ est humble parce qu'il sait que toute conversion, toute vraie conversion est une œuvre du Saint-Esprit. Et lui ou elle n'est qu'un instrument entre les mains du Seigneur. Mais toute gloire, tout honneur doit toujours aller à Jésus-Christ. Comme nous avons vu aussi ce matin, après que nous avons fait tout ce que nous avons fait pour le Seigneur, nous n'avons fait que notre devoir. Et le texte nous dit, nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Christ est tout. La gloire et l'honneur devraient aller à lui. Alors, troisièmement, non seulement la croix de Christ se tranche à cause de la scandale de la croix, et quand les hommes essayent de trouver un substitut pour la croix, mais elle va aussi trancher à cause du sacrifice de la croix, le sacrifice qui émane de la croix. Et cela nous amène maintenant dans le vif de notre texte, car notre texte, regardez au verset 14, quel beau verset ici. Paul va dire ceci pour ce qui me concerne. Il vient de blaster les judaïsants. Il les a démasqués pour démontrer justement leur motivation. Et maintenant, il se tourne vers lui. Il va dire ceci pour ce qui me concerne. Loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quel contraste avec les judaïsants. Eux qui avaient rejeté la croix et tout ce qu'elle impliquait, Paul va dire ceci, moi je me glorifie de la croix. Alors, on pourrait se poser la question, mais comment se fait-il que Paul est capable d'être différent, justement, des judaïsants? Comment est-il capable de s'associer avec la croix, avec la honte, le mépris, le rejet, la persécution, associé avec la croix? Quelle est sa motivation pour qu'il puisse regarder la croix et dire, je me glorifie de la croix? J'aimerais vous suggérer un texte dans Galates 1:10, pas besoin d'y tourner, mais je vous le lis. Paul va dire ceci, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Et ça, c'est la clé. Un vrai serviteur de Christ. Né de nouveau, ayant la foi de Dieu, ayant la pensée de Dieu à propos de la croix, voit la croix comme Dieu la voit. Au lieu de voir un scandale, au lieu de voir une pierre d'achoppement, au lieu de voir la folie, comme pour le païen, et comme les judaïsants pour chercher un substitut, ils voient la croix de Christ comme le lieu du sacrifice, où les âmes se convertissent et où la sagesse de Dieu est mise en évidence. Si je vous cite encore ce texte dans 1 Corinthiens 23, 24, Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés. Et ça, c'est la clé. Paul regarde la croix et il voit la puissance de Dieu. Il voit la sagesse de Dieu. Et c'est ça qui tranche. Et sa motivation est tout à fait différente que celle des judaïsants, qui ne voyaient que honte, mépris, rejet, persécution. Et voilà pourquoi il peut dire, je me glorifie de la croix de Christ. Mais là, on peut dire, écoute, un instant. N'est-il pas mauvais de se glorifier? Est-ce qu'il n'y a pas d'orgueil là-dedans? Si on dit, écoute, la gloire, c'est pour le Seigneur. Et Paul dit, je me glorifie de la croix. Qu'est-ce qu'il veut vraiment dire? Se glorifier, il y a deux significations. Dans un premier temps, ça peut dire louanger, et c'est tout à fait correct dans le contexte ici. Paul regarde la croix de Christ. Il dit, je ne peux que donner gloire et louanger Dieu pour cette croix, qui est une démonstration de la sagesse de Dieu, de la puissance de Dieu. Alors, je me glorifie de la croix. Mais aussi, il y a une deuxième signification qui aussi peut être dans ce contexte ici. Se glorifier d'eux veut dire tirer gloire de quelque chose. Je tire gloire de quelque chose. Et vous savez, quand un chrétien qui est dans la souffrance, dans la persécution, ou dans n'importe quelle autre épreuve, va la supporter patiemment. En ce moment-là, le chrétien, la chrétienne est en train de ressembler à Christ dans ses souffrances. Christ, quand il est mort sur la croix, a souffert patiemment, sans murmurer, sans rouspéter. Et quand on souffre, nous, des chrétiens, et nous acceptons de souffrir patiemment, sans rouspéter, sans argumenter, sans questionner Dieu, nous sommes en train de ressembler en ce moment à Jésus-Christ. Et bien aimé, ça c'est la plus grande honneur et la plus grande gloire que Dieu peut conférer à un chrétien, et vous permettre de ressembler à son Fils, et vous tirer gloire de la croix. Vous êtes persécuté pour Christ. Vous subissez les injustices pour Christ. Vous agissez comme Christ quand il a souffert sur la croix. Vous tirez gloire parce que vous ressemblez à Christ. Et ça, c'est la plus grande gloire que Dieu peut donner à un être humain. Permettre de ressembler à son Fils. Et comme je dis, cela est agréable à Dieu. Alors, Paul se glorifie de la croix. Alors, qu'est-ce que Paul voit à la croix? Comme j'ai déjà dit, il voit la sagesse de Dieu. Christ meurt sur la croix. Non pas comme un criminel, parce que comme je vous ai dit, dans le contexte historique, c'était pour les fauteurs de troubles, les criminels, les brigands, la pire espèce de la race humaine. Mais Christ meurt comme le sacrifice pour le péché. Romains 3, 25, pas besoin d'y tourner douce ici, c'est lui que Dieu a destiné à être par sans sang pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire. Alors, Christ meurt comme un sacrifice pour le péché. Alors, Paul voit cela à la croix, Il se glorifie justement du fait que Christ est mort comme une victime expiatoire. C'est lui qui paye pour les péchés. Deuxièmement, Paul se glorifie de la croix parce que, au lieu de voir la honte, le mépris, le scandale, Christ meurt pour apaiser la colère de Dieu. Un Dieu trois fois saint dont la sainteté a été offensée. Ésaïe 53, 5 nous dit ceci, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alors Paul regarde cela, il se glorifie de la croix. Ah, il dit, alléluia, Christ est mort pour apaiser la colère de Dieu. Et par ce fait même, la colère de Dieu ne tombera pas sur moi. Ah, je glorifie Dieu à cause de cela. Troisièmement, Christ meurt en démonstration de l'amour de Dieu. Romains 5, 8 nous dit ceci, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Paul regarde la croix et dit, « Je me glorifie de la croix, parce que c'est là que je vois la démonstration puissante de l'amour de Dieu. Vous voulez savoir si Dieu vous aime? Regardez la croix. Paul se glorifie. Je sais qu'il m'aime parce qu'il est mort pour moi. Il va dire dans Galates 2:20, j'étais crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et la vie que je vis maintenant, je vis au nom par la foi dans le Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même. Moi. Alors, il regarde aussi encore le Christ qui meurt pour lui. Quatrièmement, Christ meurt et ressuscite pour procurer le pardon des péchés. Éphésiens 1, 7 nous dit qu'en lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés. Paul regarde la croix, il sait que ses péchés sont pardonnés. Ah, quel poids enlevé de ses épaules. Tous ces péchés passés, présents, futurs. Dieu dit, je les efface, je te les pardonne, je les jette au fond de la mer, je ne m'en souviendrai plus. Quelle délivrance. Cinquièmement, Christ meurt et ressuscite pour obtenir la purification des péchés. Tite 2, 14, il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour de bonnes œuvres. Sixièmement, Christ meurt et ressuscite pour obtenir la proximité avec Dieu. Éphésiens 2, 13, et maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Et ça, c'était précieux pour Paul. Il savait qu'il y avait une séparation avant sa conversion. Et maintenant, il savait qu'il y avait une proximité avec Dieu. Et finalement, Christ meurt et ressuscite pour faire de nous des enfants de Dieu. Romains 8, 16 nous dit ceci, l'Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et j'en passe, la Bible est tellement pleine de toutes ces grandes bénédictions que Dieu nous a fait à cause de la croix de Christ et pour lesquelles nous devrions être en train justement de nous réjouir, de nous glorifier et de justement glorifier. Alors, vous savez maintenant pourquoi Paul se glorifie de la croix de Christ. Il voit la sagesse de Dieu. Il voit l'amour de Dieu. Il voit la puissance de Dieu. Mais aussi, il y a une chose qu'il voit aussi. La croix tranche, comme je vous ai dit. Et dans ce texte ici, verset 14b, la croix va trancher aussi et mettre une séparation entre le monde et les chrétiens. Qu'est-ce que Paul dit au verset 14b? Le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde. Quelle explication? Tout ce qui a du prix dans le monde, tout ce qui a du prix est mort pour moi. Paul est en train de dire. La croix va détruire la sagesse des hommes. La croix expose la folie des hommes. Et Paul va dire, moi, je suis crucifié, le monde est crucifié. quand je regarde la croix et je regarde le monde, les deux choses sont diamétralement opposées. Et je n'ai pas peur, justement, focaliser sur le monde, sachant que la croix détruit tout ce qui est dans le monde. Et réciproquement, il dit aussi, de son côté, le monde me repousse ou m'ignore comme un mort. C'est pas grave. C'est ce que la croix fait. Le monde, avec toutes ses pensées humaines, ses vaines philosophies, ce système tricoté par le Satan, dit, la croix, quand je regarde ça, je vois vraiment à sa vraie lumière. Et ce monde est crucifié pour moi. Mais quand le monde me regarde en tant que chrétien et voit que je suis attaché à Christ, mais le monde aussi me repousse. Et je suis crucifié pour le monde. Et ça, c'est une question qu'on devrait tous se poser. Quelqu'un a bien dit, quand le monde commence à vous flatter et vous traiter en bien, vous donner les éloges et vous élève sur une piédestal, commencez à vous poser la question. Ils ont mis notre Seigneur sur une croix. Ils l'ont persécuté. Et quand vous voyez que dans le monde, vous commencez à avoir une grande popularité, c'est le temps de vous poser des questions. Parce que le monde et la croix de Christ sont distincts. Jésus va dire à ses disciples dans Jean 15, 19, « Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait. » Le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Et Jacques, de son côté, est très catégorique. Dans Jacques 4, 4, il va dire ceci, « Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. » Alors, Paul voit le monde à ses vraies couleurs. Et troisièmement, Paul voit la croix comme lieu du salut, le seul espoir du péché. Il va dire ceci dans le verset 15, « Ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. » Autrement dit, la circoncision ne vous donne aucun avantage. Et si vous n'êtes pas circoncis, ça n'amène pas non plus aucun désavantage. Ça, ce n'est pas ça qui est en question. Qu'est-ce qui compte? C'est d'être sauvé. C'est une nouvelle création. Et nous avons deux exemples de cela dans la parole de Dieu. Un qui a été cité ce matin par Douglas. L'autre, on trouve dans Jean chapitre 3. Il y a cet homme Nicodème, pharisien, docteur de la loi, rabbin respecté, et qui vient voir Jésus, et qu'est-ce que Jésus lui dit? En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème, désolé, garde tes degrés, tout ce qui est des lettres qui derrière ton nom, ça compte absolument pour rien. Tu as toute cette connaissance dans ta tête, ce qui compte, c'est d'être sauvé. Nouvelle créature. Et l'autre, c'est Paul lui-même, dans Philippiens, comme nous avons vu ce matin. Cet homme qui était circoncis le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, pharisien, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Il va dire en Philippiens 3, 7, « Ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue. » Le français est très poli, le mot ici veut dire des excréments. C'est comme ça que Paul voyait maintenant tout ce qu'il avait avant. Cet homme qui était tellement zélé, persécuteur de l'Église, un pharisien respecté, un homme qui était vraiment irréprochable, comme il dit, à l'égard de la loi. Il dit, quand je mets cela dans la balance, à côté de la croix de Christ, c'est zéro. Ce qui compte, nouvelle conversion, nouvelle création. Alors il ne peut que se glorifier de la croix. Et vous savez son histoire, quand il a rencontré le Christ sur le chemin de Damas, tout est tombé. Tout est tombé, tout cet orgueil. Et il a dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et quatrièmement, Paul se glorifie de la croix et loue l'œuvre accomplie de la croix à cause du fait qu'elle produit la sécurité des croyants. Et j'aime beaucoup ce verset au verset 16. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Et bien aimés, ce sont des bases solides, inébranlables, sur lesquelles sont assis votre salut si vous êtes sauvés ce soir. La paix avec Dieu et la miséricorde de Dieu. Pourquoi la paix avec Dieu? Parce que Dieu est en colère. Romains 1, 18, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retient injustement la vérité captive. Et ça, c'est le message de l'Évangile. C'est pas sourire, Dieu vous aime. Smile, God loves you. Non, non, non. C'est vous avez offensé un Dieu trois fois saint et sa colère se révèle du ciel. Et vous avez besoin d'être réconcilié avec lui. Et c'est pourquoi Paul va donner cet exposé magistral en Romains, pour nous démontrer justement l'évangile, le pur évangile de Christ. Et quand il arrive à Romains chapitre 5, il va dire ceci maintenant. Étant justifié par la foi, première conséquence, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça, c'est bonne nouvelle. Christ a subi le châtiment et Dieu maintenant peut être en paix avec nous. Nous pouvons être en paix avec Dieu. Pourrions-nous perdre cette paix avec Dieu? Impossible. Il faut dire justement que le sacrifice de Christ fasse défaut. Et ça, c'est impossible. Pourquoi? Parce que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. La couronnée de gloire et d'honneur pour démontrer à tout l'univers qu'il est complètement satisfait avec l'œuvre de Christ à la croix. Alors la paix de Dieu est là. Et vous pouvez me poser la question, mais qu'est-ce qui se passe si je pêche? Mais ça, c'est l'autre côté de notre salut, de notre médaille. Vous avez la paix, vous avez la miséricorde. Qu'est-ce qui se passe? Dieu est miséricordieux. C'est son pardon. Il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes que poussière. Et si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et ça, ça ne peut pas non plus faire défaut. Parce que Dieu est dans son essence miséricordieux. La parole de Dieu nous dit, il ne se lasse pas de pardonner. Alors, paix et miséricorde. C'est l'Évangile. Ça vient de la croix. Et Paul voit cela, puis oh, les neurones ont sauté. Il est content. Il dit, je me glorifie de la croix. Quelle belle nouvelle. Bonne nouvelle. Juste pour faire une parenthèse, la miséricorde de Dieu, son pardon, ce n'est pas une invitation de péché. Si on est vraiment conscient de ce que Christ a subi à la croix, les souffrances atroce. Ça devrait nous inciter, comme nous avons entendu ce matin avec Douglas, de lutter contre le péché. Et Paul dit, pour qui est cette miséricorde et cette paix pour tous ceux qui suivront cette règle? De quoi est-ce qu'il parle? Vous savez, il n'y a que deux règles. Vous allez soit vous glorifier dans la chair ou vous glorifier dans la croix. Il n'y a pas d'autre. Il y a juste deux règles. Et tout le monde est divisé à partir de ces deux règles. Et Paul dit, ceux qui se glorifient de la croix de Christ, c'est eux qui ont le salut. Ils ont la paix et la miséricorde de Dieu. Et là, il lance un petit appel aux judaïsants. Il leur dit aussi, et sur l'Israël de Dieu. Pour vous les juifs, pas non seulement la descendance physique d'Abraham, mais aussi vous qui êtes aussi de sa descendance spirituelle. Des vrais croyants, la paix de Dieu et la miséricorde est pour vous. Et finalement, je termine avec ceci. La croix de Christ se tranche et sépare le vrai disciple du faux à cause du stigmate de la croix. Et ça, c'est une preuve de la consécration. Regardons le verset 17. Paul va dire ceci, que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Christ. Et ce mot ici, dans le grec, c'est stigma, qui veut dire une marque. Et j'ai trouvé un commentaire assez intéressant dans le dictionnaire biblique. On nous dit que c'est une marque collée ou tatouée sur le corps. Les soldats et les esclaves portaient le nom ou la marque de leur commandant ou leur maître tatoué ou incrusté dans le corps pour indiquer leur appartenance. Il existait certains adorateurs même qui faisaient marquer de la même manière le signe de leur Dieu. Le mot stigmate. Et Paul, ici, vous savez, est un vrai esclave, il est un vrai soldat, il est un vrai adorateur. Il était entièrement consacré à son maître, le Seigneur Jésus-Christ. Et dans ce qu'il dit dans le verset 17, il va planter un dernier coup, un dernier clou, dans le cercueil des judaïsants. En faisant référence à ce qui devrait caractériser tous ceux qui sont attachés à quelque chose, la consécration. Quand on est consacré à quelque chose, on est attaché à quelque chose, on devrait être consacré entièrement. Alors Paul, il va sortir maintenant, on appelle ça, cette balle dans son arme, si vous voulez, là, la consécration. Et là, il va dire aux judaïsants, écoute, là vous êtes venus après moi, vous avez semé du trou. Mais êtes-vous consacré justement à ce que vous êtes en train de prôner? Qu'est-ce que vous avez à montrer pour démontrer votre consécration, le rattachement à la loi de Moïse? Avez-vous reçu des blessures? Portez-vous des cicatrices pour démontrer jusqu'à quel point vous êtes attaché et vous croyez à ce que vous prêchez? Au contraire, les judaïsants, ils faisaient marquer les autres par la circoncision pour éviter justement la persécution. C'était des charlatans, des faux docteurs. Et Paul va dire ici dans ce texte que je porte sur moi encore les marques de Christ. Juste vous donner quelques références. 2 Corinthiens 11, il va dire ceci. 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups, moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge, 1 fois j'ai été lapidé, etc., etc. Alors, ces marques qu'ils avaient, ils étaient son identification avec la croix. Non seulement en parole, mais il avait aussi souffert pour la croix de Christ. Et ça, c'était une preuve solide de sa consécration. Il montre ça aux judaïsants. Puis il leur dit, fermez le bec. Vous ne pouvez rien dire maintenant parce que montrez-moi vous, vos blessures et vos cicatrices. Qu'est-ce que vous avez subi pour votre cause? Il ne faut pas me méprendre ici. Je ne suis pas en train de dire que nous devrions tous quitter ce lieu ce soir et aller nous flageller, là, puis nous infliger les stigmates pour... Même comme aujourd'hui, il y a certains mystiques, on nous dit qu'ils font encore cela. Mais je peux vous dire une chose, si vous êtes un croyant fidèle, attaché au Seigneur, attaché à sa croix, si vous êtes un croyant consacré, vous devez porter les marques pour Christ. Pas nécessairement physiquement, mais ça pourrait être... Dans votre âme et dans votre esprit. J'aimerais le texte dans 1 Timothée 3:12, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et ça, c'est une réalité, parce que la croix tranche. Je termine avec une citation, nommée Lily Douglas qui a dit ceci. La raison s'écrie. Si Dieu était bon, il ne pouvait voir la misère causée par le péché et dans lequel l'homme vit. Dieu ne pouvait pas voir cela et vivre. Son cœur serait brisé. Les chrétiens pointent vers la croix et disent, le cœur de Dieu a été brisé. La raison s'écrit, née dans l'iniquité et conçue dans le péché. Comment pourrions-nous ne pas pécher? Comment peut-on nous blâmer? C'est le Créateur qui est responsable. C'est Dieu qui devrait être puni. Le chrétien va s'agenouiller au pied de la croix. Il va chuchoter. Dieu a pris la responsabilité et il a subi la punition. La raison s'écrie, mais qui est Dieu? Comment est Dieu? Le nom représente l'inconnu. C'est un blasphème de dire que nous le connaissons. Le chrétien embrasse les pieds du Christ mourant sur la croix et dit, il faut adorer ce que nous voyons. Le Christ, Dieu lui-même qui meurt à la croix. La vraie raison se glorifie de la croix. Je pose une question ce soir. Que faites-vous de la croix de Christ? La croix tranche. Elle décidera votre éternité à cause de ce que vous en faites. Et pour vous et pour nous qui sommes les nouveaux et qui le savons, je vous exhorte à aimer la croix. Vous glorifiez la croix. Bénir Dieu pour la croix. Exalter la croix. À l'instar de Paul qui dit, je me glorifie de la croix de Christ. On va prier. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour la croix de Christ. Quelle preuve de ton amour sublime à notre égard. Nous savons que cette croix a été planté par les hommes, mais tu étais derrière cela. Le texte nous dit que tu as été livré par le dessein arrêté de Dieu. Et nous te remercions, Seigneur Jésus, que sur cette croix, tu as payé notre dette. Alors ce soir, on va te donner toute la gloire. Et donne-nous, Seigneur, cette grâce de porter notre croix et de te suivre, qu'importe le prix, comme l'apôtre Paul a fait. Et de nous réjouir, Seigneur, dans tout ce que la croix nous apporte. Cette immense bénédiction. Bénis ton peuple. S'il y a quelques-uns ici ce soir qui ne te connaissent pas, Seigneur, donne-leur cette révélation qui vient de toi, afin qu'eux aussi puissent se réjouir dans la croix de Christ et d'être sauvés pour l'éternité. Demandons ces choses au nom de Jésus. Amen.